Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est-ce que le recensement fédéral et comment s'éviter une amende? Un texte de l'agence QMI paru le 1er mai 2026 dans le Journal de Québec. Préparez-vous à recevoir votre trousse pour le recensement fédéral, obligatoire pour tous les ménages canadiens, qui débutera le lundi 4 mai 2026 à l'échelle du pays. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet exercice qui revient à chaque 5 ans. Le recensement fédéral, c'est ce qui permet de dresser un portrait statistique de la population canadienne pour aider à comprendre les collectivités et à planifier en fonction, par exemple, de l'âge des foyers, de leur répartition et des enjeux qui les accompagnent. Les données, prélevées tous les 5 ans, permettent d'appuyer une prise de décision éclairée du côté des gouvernements, mais aussi au niveau des administrations publiques, des communautés et des entreprises, selon Statistique Canada. Les décisions qui en résultent peuvent toucher autant votre famille que votre quartier, votre province ou territoire, ou le pays tout entier. Dès le 4 mai, l'ensemble des logements canadiens recevront des trousses jaunes à leur domicile, avec les informations nécessaires pour remplir sécuritairement le formulaire en ligne ou en format papier. Statistique Canada précise que 75% des foyers recevront un questionnaire abrégé pour ne recueillir que des renseignements démographiques de base, tandis que 25% devront répondre à un questionnaire plus détaillé, incluant des renseignements supplémentaires sur leur situation sociale et économique. Cette collecte de données, effectuée pour la première fois en 2021, se fait tous les 5 ans pour permettre de refléter avec plus de précision l'évolution de la société canadienne. Cet exercice ne date pas d'hier. Il a été réalisé pour la première fois en 1666 par Jean Talon pour dénombrer les 3215 habitants en fonction de leur âge, leur sexe, leur état matrimonial et leur profession, peut-on lire dans les archives de Statistique Canada. Au fil des ans, on y a ajouté des questions sur les récoltes, les logements et bâtiments, les armes à feu, etc., jusqu'à ajouter le recensement à la loi en 1870. Le premier recensement national officiel s'est tenu en mai 1871 auprès de 4 provinces, le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Selon la loi sur la statistique, tous les résidents canadiens doivent obligatoirement remplir le questionnaire de recensement, au risque d'écoper d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 $ en cas de refus ou de négligence, sans excuse légitime. Cette amende peut également s'appliquer pour ceux qui fournissent des renseignements faux ou trompeurs, peut-on lire. De son côté, Statistique Canada est tenu par la loi de protéger les renseignements personnels et de protéger l'identité des répondants lors de la publication des données. Seule l'agence gouvernementale aura accès à ces données brutes et ses employés doivent suivre des procédures rigoureuses et strictes. En cas de fuite des données, ils sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $ et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. Tous les habitants devront répondre aux questions du questionnaire abrégé, qui inclut des questions relatives à l'âge, au sexe à la naissance, au genre, à la langue, à l'état matrimonial et à la composition du foyer, liste Statistique Canada. Cette année, le questionnaire détaillé comprendra aussi une section sur l'état de santé, l'itinérance et l'orientation sexuelle, dans le but de combler les lacunes statistiques que d'autres programmes statistiques existants ne peuvent combler au niveau de détail ou géographique requis. C'était Obligatoire pour tous, qu'est-ce que le recensement fédéral et comment s'éviter une amende? Un texte de Agence QMI, paru le 1er mai 2026 dans le Journal de Québec.
La crise environnementale est aussi une crise du développement humain. Un texte d'Élise B. Bonneville et Saba Khan, paru le 22 avril 2026 dans la presse. Les tout-petits sont particulièrement vulnérables à la dégradation des écosystèmes, écrivent les auteurs, selon lesquels il faut penser ensemble la lutte contre les changements climatiques et l'atteinte du plein potentiel de chaque enfant. Les auteurs de cette lettre ouverte, Élise B. Bonneville, directrice générale du collectif Petite Enfance, Saba Khan, directrice générale de la Fondation David Suzuki, ainsi que 20 co-signataires. Il convient de rappeler que l'avenir de la planète est d'abord celui de nos enfants et que le rapport qu'ils entretiendront avec elle se façonne dès leurs premières années de vie. C'est dès la petite enfance que peut se construire le lien avec la nature, l'empathie envers le vivant et l'éveil aux écosystèmes qui nous entourent. Mais c'est aussi au cours de cette période que les enfants sont les plus vulnérables à la dégradation de ces mêmes écosystèmes, notamment sur les plans biologiques et neurodéveloppementaux. En effet, les tout-petits respirent plus d'air, boivent plus d'eau et consomment plus de nourriture par rapport à leur taille. Ils sont donc proportionnellement plus exposés aux contaminants environnementaux, alors même que leurs poumons, leur cerveau et leur système immunitaire sont encore en pleine construction. Pour eux, une vague de chaleur n'est pas qu'un simple désagrément. C'est un risque accru de déshydratation et de stress thermique, alors même que leur capacité à réguler leur température est encore sous-développée. De même, une mauvaise qualité de l'air n'est pas qu'un inconfort passager, mais une atteinte potentiellement permanente à leur système respiratoire en développement. Les changements climatiques ne sont donc pas qu'une crise environnementale. C'est aussi une crise du développement humain. Dès la grossesse, l'intensification annoncée des risques climatiques rend ce constat d'autant plus préoccupant. Les inégalités au cœur du problème. Au Québec, les pertes et dommages liés aux risques climatiques augmentent de manière exponentielle et ce sont déjà les populations les plus vulnérables qui en subissent les conséquences les plus lourdes. Les tout-petits, vivant dans des contextes socio-économiques précaires, n'y échappent pas. Leur famille a généralement peu de moyens pour faire face aux conséquences environnementales. Ils vivent plus souvent dans des logements mal ventilés, proches de sources de pollution, au cœur d'îlots de chaleur et ont un accès plus limité aux espaces verts. Équité, santé et prospérité. Placer les tout-petits au centre de nos priorités collectives permet de repenser nos politiques publiques de manière cohérente en liant la santé des populations, la lutte contre les changements climatiques et l'atteinte du plein potentiel de chaque enfant. Autrement dit, la prospérité du Québec passe nécessairement par le bien-être des enfants d'aujourd'hui et de demain, ce qui n'est envisageable qu'en protégeant durablement l'environnement pour une planète en santé. Pour ce faire, les politiques d'adaptation au changement climatique doivent intégrer les besoins des tout-petits. Cela implique notamment d'adapter leur milieu de vie, services éducatifs, aménagement urbain, et d'agir sur les déterminants de la santé qui influencent leur vulnérabilité, tels que le logement, le revenu, la qualité de l'air et l'accès à la nature. Parallèlement, les politiques et stratégies consacrées au mieux-être des enfants doivent être résolument arrimées à la lutte contre les changements climatiques. Ne pas le faire, c'est aborder le développement des tout-petits en faisant abstraction d'un facteur qui conditionne à présent tous les autres. Et ne pas le faire rapidement revient à nier notre responsabilité collective envers eux. C'était « La crise environnementale est aussi une crise du développement humain », un texte d'Élise Bébonneville et Saba Khan, paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
Les hospitalisations évitables par la vaccination ont plus que doublé au Canada. Un texte de Catherine Desautels de La Presse canadienne, paru le 17 avril 2026 dans La Voix de l'Est. Dans l'ensemble du Canada, on calcule qu'il y a eu environ 57 700 hospitalisations pour des maladies respiratoires pouvant être prévenues par un vaccin en 2024. Cela équivaut à 142 hospitalisations par 100 000 habitants, alors que ce taux était de 66 hospitalisations par 100 000 habitants avant la pandémie de la COVID-19. Évidemment, pré-pandémie, on n'avait pas de ces cas-là dans nos hôpitaux. Et maintenant, on voit que ça a encore un impact significatif sur les hospitalisations. C'est une des causes les plus importantes du bond qu'on voit. On aurait tous aimé que la COVID soit un blip et qu'on en ait fini avec cette maladie, mais c'est un virus qui est dans nos communautés et qui va faire partie de notre quotidien. On voit encore l'impact dans les hospitalisations, a commenté en entrevue Mélanie Josée Davidson, directrice pour l'évaluation de la performance des systèmes de santé à l'ICIS. Les autres maladies les plus fréquentes dans les statistiques sont la grippe et le virus respiratoire syncytial, VRS, qui représentaient ensemble 51 % des hospitalisations. Coût moyen de 28 500 $ par patient COVID. Les populations vulnérables sont particulièrement touchées. Selon nos données, les hospitalisations pour les maladies respiratoires qui sont évitables par le vaccin, ça touche vraiment les aînés. Donc, pour les aînés de 75 ans et plus, c'est juste en dessous de la moitié des cas, mais on voit aussi un cas sur cinq pour des enfants de moins de 5 ans, indique Mme Davidson. Le rapport de l'ICIS, qui est une collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada, ASPC, indique que les hospitalisations pour ces maladies coûtent cher au système de santé. Entre avril 2023 et mars 2024, le coût moyen par patient pour une hospitalisation due à la COVID-19 était d'environ 28 500 $ et la durée moyenne du séjour à l'hôpital était d'environ 23 jours, ce qui comprend les admissions en soins intensifs. En comparaison, les coûts pour une hospitalisation en raison de la grippe varient entre 14 000 $ et 20 000 $ pour une durée moyenne de 11 jours à l'hôpital. Les données recueillies soulignent l'importance des efforts de vaccination en santé publique. Le rapport met en lumière que les pressions exercées sur le système de santé et les coûts d'hospitalisation associés aux maladies respiratoires peuvent être prévenus par les vaccins. La couverture en santé de la presse canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. C'était « Les hospitalisations évitables par la vaccination ont plus que doublé au Canada ». Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 17 avril 2026 dans La Voix de l'Est.
Sans réforme fiscale, les futures générations pourraient avoir accès à moins de services publics. Un texte de Clémence Pavic paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir. Au Québec, les prochaines générations ne profiteront pas du même niveau de services publics que leurs aînés, à moins de payer plus d'impôts ou de s'endetter davantage. Autrement, c'est l'offre de services qui en prendra un coup, souligne une nouvelle étude de la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Actuellement, le poids de la fiscalité en place ne rend pas possible le financement des services publics actuels pour les prochaines décennies, souligne le fiscaliste Luc Godbout, co-auteur de l'étude sur la soutenabilité budgétaire du Québec, paru le mardi 10 mars 2026. Le rapport présente les tendances qui attendent les finances de l'État québécois à moyen et long terme. Tout porte à croire que les efforts actuels du gouvernement pour redresser les finances publiques ne seront pas que passagers. En cause notamment des perspectives de croissance économique plus moroses et des changements démographiques importants, indique le rapport. À titre d'exemple, le vieillissement de la population exerce une pression non seulement sur les dépenses, comme en santé, mais aussi sur les revenus, puisque le bassin de travailleurs se resserre. Compte tenu des tendances qui se dessinent, des questions s'imposent alors quant au maintien de l'offre de services publics au Québec. À cet égard, un sondage léger commandé la semaine dernière par le Journal de Montréal et le réseau TVA révélait qu'une majorité, 61% de Québécois préféreraient maintenir le même niveau de taxes et d'impôts, quitte à diminuer les services offerts par l'État. Seuls 14% des personnes interrogées préféreraient augmenter le fardeau fiscal pour maintenir les services publics actuels. Le reste des personnes sondées se sont abstenues de répondre. La situation s'est dégradée. Ce n'est pas la première fois que la Chaire mesure la soutenabilité des finances publiques. Elle produit et met à jour cette étude depuis bientôt 20 ans. Or, dans la plus récente édition, le portrait s'est assombri par rapport à la précédente, publiée en 2023. Il y a 3 ans, la Chaire calculait que le déficit budgétaire du Québec équivaudrait à environ 0,6% du produit intérieur brut, PIB, à l'horizon 2065. Les projections se sont depuis détériorées. Le déficit pourrait atteindre 2,4% du PIB à cet horizon, estime désormais la Chaire dans son scénario de base. Il y a eu beaucoup de changements dans les déterminants de la croissance économique, ce qui affecte les revenus de l'État, explique Suzy Saint-Cerny, chercheuse et co-autrice de l'étude. Entre autres, au lieu d'augmenter, la population devrait rester stable. La croissance du taux d'emploi escompté par Retraite Québec a été revue à la baisse et la productivité serait moins forte que prévu. Tout ça a un effet à la baisse sur le taux de croissance du PIB et donc automatiquement sur les revenus de l'État, résume Mme Saint-Cerny. Si le marché est plus dynamique, la situation pourrait toutefois s'améliorer, ajoute M. Godbout. Ce serait le cas si les Québécois restent plus longtemps sur le marché du travail et si la productivité s'améliore. Dans un tel scénario, le déficit budgétaire en 2065 pourrait alors n'être que d'environ 0,5%. Les défis du prochain gouvernement. À quelques mois d'une campagne électorale au Québec, Luc Godbout met en garde les partis. Avant d'annoncer des mesures qui auront des effets négatifs sur les revenus ou une pression additionnelle sur les dépenses, il faudrait vraiment être capable de rééquilibrer le budget en 2029-2030. C'est un incontournable pour avoir des finances publiques saines à moyen terme, soutient le fiscaliste. Au-delà du retour à l'équilibre, le parti qui prendra les rênes du gouvernement en octobre devra aussi prendre un pas de recul et prendre des décisions pour améliorer la trajectoire des finances publiques à moyen-long terme, estime M. Godbout. Il faudra notamment statuer sur l'avenir du Fonds des générations. Pour le moment, la loi prévoit des versements jusqu'en 2038. Qu'adviendra-t-il une fois la cible d'endettement atteinte? Que choisiront les décideurs politiques à ce moment-là? Se demande la Chaire dans son rapport, soulignant qu'il est important de s'interroger sur ces questions dès maintenant. C'était « Sans réforme fiscale, les futures générations pourraient avoir accès à moins de services publics », un texte de Clémence Pavic paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir.
Mes lieux militants. Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. Afin de célébrer la 500e publication du Fugue, qui constitue en soi une prouesse pour un magazine LGBTQ+, qui se présente en version papier depuis 1984, j'avais envie de réfléchir à ces lieux de militantisme qui m'habitent depuis la jeune vingtaine. Militer, c'est s'engager dans l'action pour une cause qui nous tient à cœur, mais, à mon sens, c'est souvent une posture politique, voire un état d'être. Certains sont militants dans le sang. Vous savez, ceux qui s'insurgent et montent aux barricades pour défendre la veuve et l'orphelin dès qu'il y a injustice. J'ai fait mon coming out début vingtaine, aidé par les Anne Trister, à tout prendre, il était une fois dans l'Est et autres représentations cinématographiques LGBT de ce monde. J'écrirai d'ailleurs un mémoire de maîtrise sur le sujet, puis, près de 20 ans plus tard, j'en publierai un livre chez McGill Queen's University Press. Sans même le savoir, l'écriture fut mon premier lieu et geste militant, une façon de m'engager dans la réflexion quant à la représentation des LGBT au cinéma et, intrinsèquement, dans la société. Le cinéma, qui deviendra pour moi un autre lieu militant, m'a permis de réfléchir ma place en société et de la revendiquer. Je me souviens qu'après avoir fait mon coming out et vu tous ces films à l'université, j'ai enlevé mes lunettes roses. On dit que le cinéma fait rêver et divertit. Certes, les grands films nous font aussi réfléchir et portent en eux des germes militants. Mon premier film, réalisé pour le compte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, était d'ailleurs un compte-rendu des premiers Out Games mondiaux tenus à Montréal à l'été 2006. Lors de ce stage à la CDPDJ, j'avais participé à la recherche menant au rapport « De l'égalité juridique à l'égalité sociale vers une stratégie nationale de lutte contre l'homophobie 2007 », qui dressait un portrait de l'homophobie et proposait des mesures concrètes. Cet important rapport, chapeauté par Monique Audet, a d'ailleurs mené à la politique québécoise de lutte contre l'homophobie en 2009, une politique qui demeure à ce jour l'une des pièces maîtresses de l'action gouvernementale en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Militer, c'est aussi, et surtout, poser des actions dans l'ombre, parfois même bénévoles, pour faire avancer nos sociétés. J'ai ensuite été chargée des communications sur le conseil d'administration de l'ensemble vocal Extravaganza, pour lequel j'étais choriste. Après l'écriture et le cinéma, la musique sera pour moi un autre lieu militant privilégié. Ayant écrit un texte pour publiciser le prochain concert de la chorale, je l'ai envoyé au Fugue. Quelques mois plus tard, j'étais embauchée comme journaliste pigiste au magazine. Au-delà de textes sporadiques sur la culture et la communauté, j'avais cette section nommée « Intervue » qui proposait des portraits de lesbiennes impliquées dans la communauté afin de rendre visibles leurs paroles et leurs initiatives. J'aime bien ce caractère militant inhérent au journalisme, particulièrement dans le communautaire. On ne le fait pas pour la paye, mais pour la cause. Une cause qui, socialement, n'a pas toujours été acceptée ou en vogue, rappelez-vous. Je me souviens avoir, quelquefois, été traitée comme une sous-journaliste, pratiquant un sous-métier avec un sous-sujet lors de conférences de presse avec les médias grand public. Pour moi, écrire pour Fugue, c'est d'autant plus un geste militant. Bien sûr, il y a une époque où associer son nom et sa photo à un magazine LGBT était plus préjudiciable et certains de mes collègues pourraient vous en parler davantage. Mais il m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires désobligeants lors de mes débuts dans le métier, il y a 18 ans. C'est notamment pour cette raison que j'ai accepté, il y a près d'une dizaine d'années, d'écrire une chronique qui s'accompagne inévitablement d'une photo, c'est la règle dans le métier, non pas par narcissisme, mais pour identifier la réflexion à une personne réelle qui, je l'espère, sans nécessairement être considérée comme un modèle, peut inspirer celles et ceux qui auraient honte de leur orientation sexuelle à s'accepter. Bref, devenir en quelque sorte le porte-étendard d'une cause est nécessairement un geste militant. C'est également pour cette raison que, dans mon premier album à titre d'auteur-compositrice-interprète, intitulé « Confession » 2014, j'avais décidé de me confesser authentiquement par le biais de mes chansons pour dévoiler mon homosexualité, mes ruptures amoureuses et l'état sociétal. Je crois que la musique est un art puissant pour passer des messages et même militer pour certaines causes. Prenez la chanson « Imagine » de John Lennon. C'est un appel à l'action pour la paix par l'engagement social et ce message des années 70 ne perd pas de sa pertinence aujourd'hui, tout comme ces jeunes hippies au festival de Woodstock en 1969 qui désiraient protester contre la guerre du Vietnam par le pouvoir de la musique. Rendre hommage, c'est aussi mettre de l'avant les figures militantes qui se sont battues avant nous et célébrer leur engagement. C'est aussi pour cette raison que j'ai écrit la chanson « En plein cœur » en 2019 pour Maison Plein cœur, qui a pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH et que j'ai été porte-parole pour l'organisme pendant des années. Mon action communautaire ne s'arrête pas là. J'ai aussi été responsable des communications pendant 5 ans au Réseau des lesbiennes du Québec. Avec la directrice générale de l'époque, Julie Antoine, j'ai eu la chance de militer en ce lieu en utilisant mes forces militantes, l'écriture, le cinéma et la musique. Je pourrais vous parler de la fameuse anthologie « Archives lesbiennes d'hier à aujourd'hui » 2023, qui revisite l'histoire lesbienne de la Grèce antique à aujourd'hui, où j'y ai mis mes talents de journaliste à profit, ou encore de la myriade de personnalités du milieu présentées dans les livres de « Portraits pour les journées de visibilité lesbienne », sans oublier notre bande dessinée « Lesbo Queer » 2019. Et que dire des films réalisés qui ont été présentés dans plusieurs festivals à travers le monde? Du film expérimental « Femmes, réflexion identitaire » 2018 au film d'animation « Amour irisé » 2022, sans oublier le documentaire « Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, 40 ans plus tard » 2022, co-réalisé avec Dominique Bourque et Feu Joanne Coulombe, qui voyage encore en festival près de 4 ans après sa réalisation. Je crois fortement en l'art comme lieu de militantisme. En ce sens, militer, c'est aussi, pour moi, produire de l'art. Lorsque l'art est diffusé, il rejoint son public, passe son message, génère l'engagement et parfois même l'action. Enfin, je pourrais également citer des lieux militants plus conventionnels. Je ne compte plus les fois où j'ai manifesté dans la rue avec une pancarte pour les droits des femmes, des LGBT, où j'ai pris part à des événements où la visibilité et l'engagement peuvent devenir une forme de militantisme, que ce soit lors des défilés de Fierté Montréal, la Dyke March, la journée de visibilité lesbienne, lors de la journée du 17 mai contre l'homophobie, en faisant une conférence au Gris, en chantant avec les nanas, en prodiguant la tournée « Empowerment des femmes LGBT dans les universités » et enfin en enseignant le cinéma aux jeunes, en leur présentant des œuvres d'artistes militants qui voient le monde différemment et qui s'engagent à travers l'art. Et surtout, en leur montrant à développer leur pensée critique afin qu'un jour, ils deviennent eux-mêmes militants. C'était « Mes lieux militants », une chronique de Julie Vaillancourt, paru le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.